Interview.
1RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Et je suis en compagnie de Claude Verré. Bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs. Mais ça n'est pas branché encore.
Si, si, c'est branché.
C'est okay.
Ah, on peut commencer aussi les interviews comme cela. Claude, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, quand même, te tient à cœur et qui fait partie de ta vie, mais peut-être qui n'est pas autant connu par les DIWA, une histoire autour de l'élevage, du syndicalisme, de la Confédération paysanne, tout un tas de choses dans lesquelles tu as œuvré pendant ta jeunesse et ton arrivée ici dans le DIWA. Aujourd'hui, on te connaît bien sûr autour des rencontres de l'écologie au quotidien de DI, notamment, et puis pour du journalisme par exemple. Syndicalisme à l'occasion de la sortie d'un livre, enfin de la sortie, ça fait déjà, tu me le disais, hors antenne 2 mois. Être paysan ensemble, une page de l'histoire du syndicalisme paysan dans la Drôme, un ouvrage qui a été écrit en partie autour de Cré et de la personne de Jacques Lyotard.
Alors, exact.
Eh bien, donc, je ne sais pas de quoi on va parler, de ce livre sans doute, puis d'une suite d'ailleurs à cet ouvrage.
Oui, c'est un syndicaliste paysan hein, qui a regroupé à peu près toutes les filières socioprofessionnelles de la Drôme, qui est un des départements les plus riches au niveau de la diversité agricole. C'est une histoire singulière parce que il y a 4-5 départements, je pense à la Mayenne, à la Loire-Atlantique et la Drôme, qui se sont déjà positionnés dans les années 70 en réactivité à la FNSEA. Et donc, il y a toute une histoire originale, un syndicalisme de lutte par rapport à ce que la FNSEA voulait, ce qui était un syndicalisme dit de masse, et qui nous a pris, qui nous a engagés, qui nous a mobilisés pendant plus de 20 ans. Sur des luttes très emblématiques comme celle du Larzac, mais beaucoup de luttes ici sur la Drôme. Et ça a été un moment, bien sûr, c'était nos 20 ans aussi, donc on peut toujours les idéaliser, mais c'était un moment extrêmement puissant au niveau de l'engagement.
Le syndicalisme type FNSEA, enfin, est-ce qu'on peut resituer un peu le contexte dans les années 70 ? Il est tout seul ? Il est omniprésent ?
Il n'est pas tout à fait tout seul, puisque à la sortie de la guerre, bien sûr, la CGA se transforme en FDSEA avec son appendice, le CNJA. Mais à côté de ça, existe le MODEF, un syndicalisme paysan plutôt d'obédience communiste. Et puis se démarre aussi, particulièrement en Loire-Atlantique, autour de Bernard Lambert, ce qu'on a appelé les paysans travailleurs. C'était un mouvement qui venait beaucoup de la JAC, de la jeunesse agricole catholique, des mouvements de jeunesse chrétien. Et de la JOC aussi, un peu. Et c'était un mouvement qui s'est cristallisé surtout après la guerre d'Algérie où il y a eu un moment de prise de conscience des paysans, parce que les paysans étaient allés déjà 2 fois au carton. Hein. C'est eux qui ont payé le prix cher des guerres en question et des guerres coloniales aussi. Et donc, il y a eu au retour une vraie prise de conscience d'abord du colonialisme et ensuite des luttes dans un système qui était franchement injuste. Et la paysannerie s'est trouvée dans un peu le fer de lance des luttes parce qu'elle était en pleine liquidation, on va le dire, comme après la guerre. Mmh. Donc, elle s'est retrouvée vraiment aux avant-postes des luttes en matière de foncier, en matière d'industriel, des premières industrialisations, et puis face à l'agroalimentaire et à la grande distribution qui naissait. Et donc, on s'est retrouvé, oui, en pleine effervescence dans le monde agricole.
Est-ce qu'on pouvait déjà parler à ce moment-là de la naissance d'un nouveau modèle agricole ou de l'affrontement de deux modèles, un truc un peu productiviste et puis pris dans l'agro-industrie, tu le citais, voilà, le phyto, etc. Et puis de l'autre côté, on l'a bien vu par exemple ici dans la Drôme et dans le DIWA particulièrement, à partir des années 70, des vagues de personnes qui se mettent au vert et puis qui... Et qui assument ça aussi, c'est-à-dire c'est pas uniquement pour leur bien-être, mais pour aussi travailler la terre autrement.
Eh ben tu sais, c'est assez paradoxal parce que moi, quand je sors du lycée agricole du Valentin en 72 et que je m'installe comme paysan, j'avais été façonné par le système. J'avais avalé tout ce qu'on m'avait raconté en cours d'économie, en cours d'agriculture, en cours de zootechnie. Et donc, quand j'ai démarré mon exploitation, j'ai démarré comme productiviste. Je suis arrivé sur la ferme, j'avais les conseillers agricoles qui venaient me dire combien il fallait que je mette d'engrais, combien il fallait que je retourne mes prairies pour mettre des régras, comment il fallait que j'achète des machines, comment il fallait que je me mette au contrôle laitier, comment je devais inséminer mes vaches, etc. Donc je suis parti sur un système complètement productiviste. J'avais été vraiment façonné à l'école par ça. Et donc la remise en cause du système est venue petit à petit. Par des lectures, par des fréquentations. Tu sais, dans les années 72, j'ai démarré, il y avait 5 ou 6 agriculteurs en agriculture biologique dans le département, des historiques qui travaillaient avec le maire Boucher. Et en 72-73, commençait à émerger une structure qui s'appelait Nature et Progrès, auquel j'ai adhéré et qui a commencé à façonner une autre vision de mon imaginaire agricole. Et puis surtout, et ça, on pourra revenir sur le productivisme, petit à petit, engagé dans cette course, plus de terres, plus de bêtes, plus de machines, plus d'emprunts. Et à un moment, j'ai dit, bon, ben, ça sera jamais fini, quoi. Et donc, il y a un moment, la remise en cause a été flagrante, mais ça a duré quelques années quand même.
Cette question de plus d'emprunts, notamment, c'est quelque chose qui est souvent pointé dans l'agriculture productiviste. Les gens se ruinent, en fait, sont complètement pris à la gorge constamment, et beaucoup ne peuvent pas se sortir de ce truc-là. Est-ce que ça passe forcément par produire autrement, passer en bio, par exemple?
Alors, produire plus, c'est une sorte de. Oui, c'est quand je dis que c'est une fuite en avant, c'est vraiment une fuite en avant. C'est-à-dire que plus tu as de bêtes, par exemple, plus il te faut de surface, plus tu as de surface, plus il te faut de machines, plus tu as de machines, plus tu vas t'endetter au Crédit Agricole ou une autre banque aujourd'hui, plus tu as des annuités à rembourser, plus tu as des annuités à rembourser, plus tu vas mettre de bêtes ou plus de terres. Et donc, c'est jamais terminé, quoi. C'est pour ça qu'en des années 70, avec des petites exploitations autour de 20 hectares, on est arrivé aujourd'hui à des exploitations agricoles de 50, 60, voire 100 hectares. Même certaines dans le Diois, il y a une exploitation qui fait 1000 hectares. Donc, on est arrivé à un système où la course en avant et pour rembourser les emprunts est presque obligatoire. La remise en cause de ce système est très compliquée pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord que si vous arrivez à ce stade d'endettement, comment vous faites pour revenir en arrière? C'est quasiment impossible, sauf à trouver des associés. Et peut-être que ça, c'était une des solutions. C'est une des solutions. C'est le GAEC ou la mise en commun, en tout cas par le biais d'une CUMA autrement, de moyens de production. Et puis l'autre système, c'est de faire une grande transition vers la bio. Ça veut dire de décroître. Et dans l'imaginaire des agriculteurs, j'ai vu très rarement des agriculteurs qui disaient oh ben, je suis arrivé à 60 hectares, j'en ai beaucoup trop, tiens, je vais en donner 10 à un jeune pour qu'il s'installe, et puis moi, je vais en garder que 50, puis peut-être que 40, et puis je vais diminuer mon troupeau, j'ai 50 laitières, je vais remettre que 30 parce que ça, j'ai bien assez de travail. Et ça, dans l'imaginaire, où on a teuté aussi le. Plus, plus, plus. Le progrès, c'est toujours plus. C'est s'accroître, c'est grandir, c'est être productiviste. C'est une révolution mentale qui est très difficile à faire pour un agriculteur. Henri Mandras, qui a écrit La fin des paysans, disait que les agriculteurs avaient leur représentation sociale vis-à-vis du nombre d'hectares qu'ils avaient et vis-à-vis du nombre de bêtes qu'ils avaient. Et quand en 76, par exemple, il y a eu la grande sécheresse, avec ce qu'on a inventé, l'impôt sécheresse, beaucoup d'agriculteurs préféraient acheter du foin ou de la paille pour nourrir des bêtes qu'ils n'arrivaient plus à nourrir plutôt que de vendre des bêtes. Parce que vendre des bêtes, ça voulait dire qu'ils allaient décroître, qu'ils allaient avoir une représentation sociale bien moindre au niveau de leur commune, de leur canton, voire de leur arrondissement. Donc on est dans un processus qui est à la fois mental et à la fois économique.
Pour continuer un petit peu sur cette histoire assez locale, hein, que donc tu as vécu, tu t'installes en 72, et puis quand même les années 70, la fin des années 70, début 80, ont vu arriver beaucoup de gens, je le disais ici, et qui se sont mis justement presque majoritairement à la bio. Voilà, ton témoignage là-dessus, qu'est-ce que tu as vu arriver ici? Est-ce que c'était aussi des personnes qui, comme toi, ont été formatées à un moment donné, et puis on avait sciemment décidé de changer? Qu'est-ce que ça a fait? Et puis, pourquoi ces gens-là acceptent-ils de décroître, d'avoir une représentation sociale amoindrie, si ce n'est pas l'inverse, du coup, puisqu'on le voit ici, quand même, l'histoire nous prouve le contraire.
Je pense que je dirais presque, c'est pas pour botter en touche, mais que chaque agriculteur et agricultrice a un cheminement un peu individuel. Tous, on n'a pas été tous formatés à la même enseigne, aux mêmes écoles agricoles. Après, il y en a pas mal qui, contrairement à ce qu'on croit, ont fait des études agricoles. Je pense à Thierry Geffray, par exemple, qui s'est installé à Mont-la-Hugues, sur Bellegarde-en-Diois, qui était ingénieur agronome, qui aurait dû partir en coopération, qui est rentré dans les guérillas sandinistes avec Noriega et qui est revenu s'installer avec des brebis. Donc, tout le monde a eu un parcours souvent extrêmement puissant au niveau de l'engagement politique après 68, éminemment. Et donc, beaucoup de gens qui se sont venus s'installer. Même s'il y a des gens comme le père Legault qui s'est installé en 47, beaucoup de gens se sont installés dans le Diois en 70, 71, 72, dans une période où on pensait refaire le monde. Le monde rural était en déshérence, était en désertification. Il y a des villages qui se vendaient comme Vaunières ou comme Verchenil-le-Haut qui se vendaient 1 franc. Donc il y avait une vraie opportunité de venir s'installer dans le monde rural. Les fermes étaient abandonnées, les fils étaient souvent partis comme fonctionnaires. Et donc moi, quand je suis arrivé ici dans le Diois, j'ai visité une vingtaine de fermes, de Bouvières à Chamaloc, qui étaient abandonnées. Les vieux étaient partis, ils avaient tout laissé sur la table. Il y avait encore le kill de rouge sur la table et tout. Et c'était incroyable. Et donc, c'était un pays à réinvestir. Et donc, ça aidant plus le fait qu'on voulait transformer le monde, qu'on voulait transformer la société, qu'on pensait qu'on allait faire la révolution dans ce monde rural, c'était aussi les après-Mao. Hein, faut pas oublier, la révolution, c'était aussi la révolution paysanne. C'était plus que la révolution ouvrière. Et donc, on s'est investi totalement dans cette volonté de changer nos vies, d'abord, nos vies, et puis la vie de ce territoire pour en faire un terreau d'une révolution, entre guillemets, je mettrai des guillemets.
On vient de faire un petit peu de contexte avec toi, Claude Véret, sur cette histoire, en tout cas une page de ce qui s'est passé ici dans le Diois. C'est le cadre aussi de ce bouquin dont on parle, Être paysan ensemble. C'est une page d'histoire du syndicalisme paysan. On va en parler du coup, ces luttes. Qu'est-ce qui vous a rassemblé et comment vous vous êtes rassemblé pour finir à l'émergence d'un certain nombre de syndicats majeurs aujourd'hui et correctement représentés ici dans le Diois. On parle de 1960 à 1990. Bon, on ne va pas spoiler tout ce livre, mais les grandes lignes.
La singularité de ce syndicalisme, c'est que ce n'était pas un syndicalisme comme l'imaginait la FNSEA ou la FDSEA départementale. C'était un syndicalisme de lutte qui s'est cristallisé autour de problématiques d'agriculteurs et d'agricultrices. Je vais prendre 2-3 exemples. Quand en 79, quand Maggie Laborde et Jean-Pierre Laborde sont en conflit avec le propriétaire et la commune pour des questions d'alpage sur Volvan.
Ouais.
On est monté 150 paysans avec la masse, les piquets, les clôtures. Et pendant une journée, on a fait un pique-nique et on a tout clôturé, ce qui leur revenait de droit au niveau du bail que nous, on avait imaginé. Et donc, c'était pour leur rendre service. C'était un syndicalisme de lutte. C'était un syndicalisme aussi de convivialité, puisqu'on mangeait bien et on buvait bien ensemble. Et c'était aussi... on ne voulait pas mobiliser la totalité du monde paysan. On voulait que sur certaines actions, il y ait une solidarité vraiment puissante autour d'une famille. Ça a valu aussi, c'était un peu plus tard, c'était en 82, sur la ferme des Sagnes, à Beaumont-en-Diois, quand cette ferme qui était en déshérence depuis des années, ça faisait 20 ans qu'elle était une chasse d'un syndic de viticole privé, du Var.
Ouais.
Et donc, quand Marianne et Gérard s'installent sur cette ferme, immédiatement, avec beaucoup d'aide, la mairie Pouzin à l'époque était favorable. Il y avait un arrêté préfectoral sur les terres en friche. On avait tous les ingrédients. La mairie s'était positionnée. Pourtant, M. Pouzin n'était pas quelqu'un qui était très engagé. Il était à la FDSEA. Le syndicalisme a permis que cette ferme ne soit pas vendue 3 fois au tribunal de Draguignan, on s'en rappelle un tout petit peu. Et donc, c'était vraiment pour aider à l'installation de jeunes agriculteurs, pour maintenir des exploitants en place. Quand la ferme Bélier de Beaumont-en-Diois accaparait toutes les terres du lac. On est allé plusieurs fois pour occuper les terres et labourer les terres pour pas qu'il ait tout le lac pour lui tout seul. Donc c'était aussi pour une juste répartition du foncier, pour éviter que des gros agriculteurs accaparent tout le foncier. Donc c'était un syndicalisme vraiment de lutte et qui nous a extrêmement soudés. Voilà. Trois exemples, par exemple.
Et voilà, en opposition à un syndicalisme plutôt de masse tel que la FNSEA le faisait, c'est-à-dire défendre des grandes causes agricoles, là on vient travailler sur l'humain, ce que vivent certaines personnes, parfois même défendre même un lieu de vie, des espaces de vie. Tu me citais hors antenne Glandage, enfin, ce qui s'est passé, voilà, on peut aussi défendre une école et donc la survie même d'un village pour que les agriculteurs y restent, par exemple.
Absolument. La FNSEA a eu cette prétention de vouloir regrouper du plus petit agriculteur au plus gros, ne tenant pas compte de ce qu'on appelait et ce qu'on appelle à bon escient la différence de classe dans le monde paysan. Et c'est illusoire de vouloir, dans un système de représentation tel qu'il a été fait après la guerre, de vouloir défendre le petit agriculteur qui a 5 hectares à Rocoubo et l'agriculteur qui a 1000 hectares dans la Beauce. C'est ça absolument pour nous, en tout cas paysans, ça n'avait aucun sens. Et donc on a tout de suite saisi qu'il y avait une confiscation du pouvoir par les gros agriculteurs qui avaient de la disponibilité au niveau de la représentation et qui étaient bien introduits dans les ministères. On peut même dire que la FNSEA est un syndicat stalinien d'une certaine manière, qui co-gère la politique agricole aujourd'hui avec le ministère de l'Agriculture et avec Bruxelles, et que les agriculteurs, les petits agriculteurs, particulièrement les petits agriculteurs de montagne, servaient seulement à faire masse quand il y avait besoin d'eux pour les manifestations ou pour revendiquer un nombre impressionnant d'adhérents. Donc on a vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui dissonnait dans le syndicalisme paysan. Et c'est vrai ce que tu dis, le syndicalisme drômois avait cette singularité qu'il s'est attaché aussi à lutter contre des problèmes de société. Tu parles de l'école de Glandage qui est assez symptomatique pour le Diois, puisque 78, 79, 80, on ouvre une école sauvage à Glandage, puisque l'académie fermait l'école. Madame Goulet de Rugy fait l'institutrice pendant un certain temps, illégalement. Et donc, on a mobilisé, là, autour de l'ancien maire, Dominique Schmerber, on avait mobilisé aussi tout le syndicalisme. On avait fait plusieurs manifs là-haut. Et oui, ça a été des luttes emblématiques qui nous ont aussi beaucoup soudés avec d'autres personnes qui étaient du monde de l'enseignement. Mmh. Ou d'autres. Donc, il n'y avait pas de barrière, finalement, au niveau des interprofessions, des professions dans ce département. On a mené beaucoup de luttes avec d'autres personnes. Après, on a aussi beaucoup mené de lutte à l'extérieur. Hein. Je ne peux pas m'empêcher de parler de la lutte du Larzac de 71 à 81, particulièrement la manif de juin 73, où on était, je ne sais plus combien, 600 000 ou un truc comme ça, mais c'était énorme. Et ce sont des moments mémorables. En plus, ça a été une victoire. Donc, comment ne pas la souligner aujourd'hui quand on voit que Notre-Dame-des-Landes peut prendre un peu la tournure similaire? Ça ne peut que nous réjouir. Est-ce que cet exemple a pu servir au gouvernement pour faire marche arrière? On l'espère. En tout cas, le Larzac est toujours là. Et des GFA se sont créés, des jeunes agriculteurs se sont installés. Et le Larzac est connu aujourd'hui pour une lutte emblématique.
Et la Drôme un peu moins, et pourtant il y a quand même un paquet de gens qui se sont installés aussi. Alors le livre, tu me le disais hors antenne aussi, se concentre finalement sur ce qui s'est passé dans la plaine, en partant son écriture de Cré. Donc, on pourrait d'ailleurs parler un petit peu comment il a été construit ce livre. Mais donc, il y aurait un syndicalisme paysan de plaine qui pourrait différer un petit peu de celui de la montagne. Les problématiques ne sont pas les mêmes.
Oui, d'abord, c'est vrai, ce livre a été écrit sur l'initiative de Pierre-Antoine Landel, un géographe qui travaille à l'Institut de géographie alpine de Grenoble, qui a essayé avec Jacques Lyotard, un agriculteur qui faisait de l'ail sur Cré, qui vient de décéder, un ami, qui ont ouvert à la cour de Cré des ateliers d'écriture. Et donc, pendant un an et demi, 2 ans, il y a une vingtaine d'agriculteurs qui sont retrouvés pour témoigner. Ce livre est finalement un livre de témoignage de leur parcours, de la guerre d'Algérie jusqu'en 1990 à peu près, quand le syndicalisme se transforme un peu avant en confédération paysanne. Les paysans travailleurs passent à la FDSP, qui adhère à la FNSP, et puis à la coordination, d'abord la coordination rurale, puis la confédération paysanne.
La confédération paysanne est créée dans la Drôme ?
La confédération paysanne drômoise est créée dans la Drôme.
Oui, d'accord.
Après, au niveau national, beaucoup de départements étaient dans un cheminement similaire. Je pense à la Loire-Atlantique, à la Mayenne et à d'autres départements où les FDSEA étaient dissidentes, ce qu'on appelait à l'époque. C'est paradoxal, mais on peut pas... C'est un peu compliqué, cette histoire, parce que dans la FNSEA... comme je disais tout à l'heure, était censé représenter tous les agriculteurs. Seulement avec l'analyse qu'on avait faite au niveau de l'engagement et au niveau de la politique, on s'était... Le département de la Drôme, avec à un moment 10 départements, se sont trouvés en porte-à-faux avec la FNSEA. On s'est singularisé dans ce syndicalisme de lutte et on était dissident avec la section des fermiers et métayers, par exemple. On était dissident de la FNSEA jusqu'à ce qu'on se fasse virer et que la FNSEA remplace nos dirigeants de la FDSEA par des dirigeants aux normes et à la botte. C'est paradoxal, mais moi, quand j'ai été élu président de mon syndicat communal, j'étais président de ma section de la FDSEA. Et après, j'ai été président cantonal, j'étais président de mon canton de la FDSEA. Mmh. Et après, j'étais responsable montagne de la FDSEA, tu vois. Donc, c'était une FDSEA complètement dissidente de la FNSEA. Mmh.
Voilà. Et donc, là, au moment où le mouvement un peu de cette confédération paysanne se crée, ça a permis de cristalliser peut-être un certain nombre d'antennes locales comme ça. Voilà.
Et ça a fait se rejoindre les paysans travailleurs qui étaient restés sur cette dynamique de lutte. La FDSP de Jacques Lyotard et d'autres, hein, d'Armand Ola, de Daniel Dumoulin, on était un syndicalisme qui... Les paysans travailleurs étaient plus radicaux. Et la FDSP était plus apaisée, on va le dire comme ça. En tout cas, les deux se sont retrouvés pour former la Confédération paysanne. C'était une synthèse qui a été faite à un moment où, pour avoir une plus belle représentation, l'émiettement du syndicalisme paysan, même le MODEF, n'a pas permis toujours une représentation. Il a fallu carrément attendre les années Mitterrand-Cresson. Cresson, ministre de l'Agriculture, pour avoir une représentation. Et ça a été laborieux d'avoir cette représentation. Et encore, elle n'est pas acquise non plus en tout temps.
C'était une aparté, donc je t'avais coupé. Et sur cette belle lancée, on faisait une différence entre le syndicalisme paysan en plaine et en montagne.
Alors oui, le livre se cristallise beaucoup sur le syndicalisme en plaine. C'était la facilité, je pense, des gens de la plaine de venir à Cré pour témoigner. Je pense, oui, qu'il y a des oublis. C'est pour ça qu'un deuxième ouvrage s'imposera pour retrouver des amis comme André Buchère à Montfroc, qui a mené des luttes, comme Michel Bonnard dans le Vercors, comme dans le Diois. Toutes les luttes du Diois ne sont pas toutes vraiment dans le livre. Que ce soit l'école, que ce soit les Sagnes, que ce soit Volvan, que ce soit de ce dont je parlais tout à l'heure. Et donc, je crois qu'il y a encore, une page de l'histoire à écrire. La singularité, c'est que la différence plutôt, c'est que la plaine de la Drôme, avec toutes ses qualités, est une plaine où il y avait beaucoup d'arboriculteurs. Ou de semenciers ou de grandes cultures. Et donc ce syndicalisme, cette paysannerie de grandes cultures, de plaine, est notablement différente de celle de la montagne, parce que souvent en montagne, on était en élevage. Et en plaine, peu d'élevage. Le syndicalisme d'élevage n'est pas tout à fait, pour moi en tout cas, pas tout à fait le même. Il y a un attachement aux bêtes, il y a des petites surfaces, des petites structures. La montagne est vivait d'autres engagements, par exemple, je pense aux luttes contre les plantations de sapins sur Vassieux-en-Vercors ou sur Villard-de-Lans, où avec Serge Leclerc, qui était alors agriculteur à Vassieux, on allait et le mouvement paysan des paysans travailleurs et de la FDSEA dissidente allait arracher les sapins qui avaient été plantés le jour, allait arracher les sapins la nuit pour pouvoir garder des pâturages et des terres. Toute cette partie-là est très peu évoquée dans l'ouvrage. Il y avait une nette différence sur la difficulté d'installation en montagne. À la fois, il y avait en plaine, on a vu peu de jeunes s'installer finalement, alors que le Diwa était emblématique d'installation. Petite surface, moins cher au niveau de l'acquisition du foncier, peut-être un territoire qui prêtait plus à l'aventure ou aux alternatives que d'aller s'installer dans la plaine de l'Auriol. Moi, j'ai rien contre, il en faut. Comme disait le Tché, il faut aller s'installer dans le ventre du monstre. Mais je pense que c'était la vision qu'on avait d'une nouvelle vie plus apaisée. La montagne en faisait partie. Un peu peut-être cet idéal de résistance ou cet idéal de Robin des Bois, j'en sais rien, mais il y avait quelque chose.
L'enclave aussi un peu.
L'enclave, ouais. Ouais, qui faisait que oui, la montagne résonnait bien avec ce qu'on avait envie de vivre.
Et du coup, ces luttes en montagne, si c'est pas une comparaison qu'il faut avoir, ont-elles une force qu'on pourrait dire supérieure à ce qui s'est passé en plaine? On lutte pas sur les mêmes choses ou c'est plus facile, je sais pas.
Non, je pense qu'on avait beaucoup de points communs. On avait cette solidarité, on avait cette réflexion commune. On descendait en plaine pour les luttes, pour arrêter les ventes aux enchères à Montoison ou à Valence. Les gens de la plaine montaient dans le Vercors ou dans le Diwa pour les luttes dont je viens de parler. Donc non, il y avait une immense solidarité. On n'était pas non plus des milliers, donc c'était une obligation. Et je dirais aussi qu'au fil des luttes, il y a une amitié réelle qui s'est tissée entre tous ces militants. Et on se retrouvait avec immensément de plaisir. On avait réussi, je pense, on avait réussi à marier la lutte et le plaisir. La lutte n'était pas triste et on est devenus des amis.
Et puis tu soulèves autre chose, c'est que la condition agricole, enfin en tout cas ce travail-là, c'est souvent quelque chose de très solitaire, dur, on le répète jamais assez. Et donc se retrouver, ça fait aussi du bien, partager des choses.
Ça faisait beaucoup de bien. Tu as raison, le travail d'agriculteur est un travail où on est souvent isolé sur son exploitation. Toujours, pour les agriculteurs de montagne encore plus, puisqu'ils étaient souvent, comme on dit, au cul des bêtes. Et donc, oui, il y avait ce besoin de sortir. Le syndicalisme, en même temps, a été un formidable espace de formation pour tous les agriculteurs. Formation, bien sûr, à décrypter la politique agricole, à décrypter la politique tout court, à décrypter aussi les relations de classe, les relations, les conflits de classe, et à identifier vraiment un territoire, les besoins d'un territoire, à voir ce qu'on pouvait faire en commun. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été créées grâce au syndicalisme, des coups de main, bien sûr, pour les gros travaux, mais des achats de matériel en commun, des choses qui ont débordé le syndicalisme. Oui, il a participé beaucoup à la coopération entre les agriculteurs.
Claude Verret, autour de ce livre « Être paysan ensemble, 1960-1990, une page de l'histoire du syndicalisme paysan dans la Drôme », édition des Lisières. Cet ouvrage, on peut le trouver, tu vas nous dire où. Et j'ai envie de savoir, c'est un témoignage et c'est bien, on rassemble des gens qui d'ailleurs, tu le disais, Jacques Lyotard est mort depuis, donc c'est bien d'avoir comme ça collecté et figé un peu leurs paroles. Mais à qui s'adresse ce livre? Quel est le sens de cet ouvrage et du suivant que tu prépares pour réajuster entre la plaine et la montagne?
Alors, ce livre, il a une mérite immense, c'est d'écrire une page de l'histoire où les agriculteurs qui ont mené ces luttes-là, comme Jacques et d'autres, comme Robert Champel, qui vient de décéder il y a une semaine aussi, sont en train de disparaître. Et que s'il n'avait pas été écrit, c'est toute une page du syndicalisme qui aurait été peut-être perdue. Je fais partie quand même de la génération un peu d'après, hein, puisque j'ai 20 ans de moins que Jacques Lyotard, que Michel Terraille. Donc, je suis plus de la génération de Vincent Lefort ou de Vincent Ducomet, où on a mené des luttes sur ce territoire. Et donc, je ne sais pas si nous aurions été en capacité d'écrire cette page-là, parce que nous n'avons pas vécu la guerre d'Algérie, nous n'avons pas eu les premières bribes 47-70. Il nous manquait ces éléments. Et ce livre apporte des éléments à la construction de ce syndicalisme. Donc ça, c'est assez important. Le fait que ce soit un livre de témoignage aussi, je pense qu'à un moment, il faut se réapproprier l'histoire. Je suis sûr, je sais qu'il existe des livres sur l'histoire du syndicalisme national au niveau des paysans travailleurs et au niveau des luttes. Paysans dans la lutte des classes, par exemple, de d'Amédée Mollard, les paysans dans la lutte des classes de Bernard Lambert. Mais je pense qu'il n'y avait pas de témoignage au niveau local. Et je pense que là, les paysans de la Drôme ont repris la plume et la parole parce que l'histoire, c'est le peuple aussi qui l'a fait. Et ce livre est le témoignage d'une page qui n'aurait peut-être pas été écrite par un historien. Alors, Pierre-Antoine Landel était bien placé pour faire cette animation et aussi pour écrire en partie ce livre, puisqu'il a été animateur de la FDSEA dissidente dans les années 72, 73, 74. Je n'ai plus tellement en mémoire les dates. Et donc, il connaissait extrêmement bien ce milieu avant de devenir géographe et avant de devenir même directeur de la communauté de communes du Diois à un certain moment. Donc, oui, il connaissait très bien cette histoire. C'est une réappropriation de notre propre histoire.
Et qui nous permet donc d'affiner en plus cette lutte qui, effectivement, si elle est traitée d'un point de vue national, eh ben, perd un peu de saveur. Donc il s'adresserait plutôt aux gens d'ici, oui, aux paysans qui sont encore en activité aujourd'hui, aux nouveaux qui s'installent.
Oui, alors j'ose espérer que le syndicalisme, la Confédération paysanne, c'est son histoire, s'inspire et s'inspirera de ces luttes. Je ne sais pas dans quelle composition aujourd'hui est la Confédération paysanne. Et je me permettrai pas de parler à sa place. En tout cas, c'est les pierres sur lesquelles s'est construite cette confédération. C'est un livre qui met en valeur tous ces agriculteurs qui ont donné une grande partie de leur vie à des luttes collectives, à des engagements, à des réflexions au niveau de la politique agricole. On peut dire à un certain moment que c'est grâce à ces luttes-là que l'on a parlé, par exemple, de malbouffe pour les premières fois, on parle aujourd'hui, par exemple, de protéger les terres agricoles de l'urbanisation. C'est né dans ces luttes-là. Déjà, on en parlait dans les années 70. Aujourd'hui, l'installation en agriculture biologique aussi est née dans ces années-là. Aujourd'hui, la bio, nous, elle ne faisait pas 1% quand on s'est installé. On était extrêmement marginalisés. Et donc aujourd'hui, il y a 33% d'agriculteurs bio dans la Biovallée. Je veux dire, il y a des choses qui ont pris de l'ampleur. Je ne sais pas au niveau du productivisme. Je ne suis pas prophète et je ne sais pas comment va tourner l'agriculture. Si elle va être il va y avoir deux types d'agriculture, une hyper productiviste et exportatrice et puis une agriculture de petits exploitants. En tout cas, on a posé les premières pierres d'une autre agriculture dans ces années-là, qui était de dimension humaine, peut-être de dimension familiale, mais en tout cas de dimension humaine, de petite paysannerie qui fait vivre des territoires, qui fait vivre des communes, qui fait vivre des écoles, qui fait vivre des associations et qui n'a pas envie de bouffer toute la commune ou tout le territoire. Donc on est sur un autre type de développement et cet autre type de développement, cette autre vision de l'agriculture paysanne, elle est née dans ces moments-là et je pense que c'est là les sources et les ressourcements pour les jeunes qui s'installeront demain.
Ça a été presque déjà évoqué, mais comment tu sens aujourd'hui cette paysannerie ? On va se concentrer juste sur la Drôme, sa plaine et sa montagne.
Moi, j'ai espoir. J'ai espoir. Aujourd'hui, on est dans une configuration dans la Drôme et dans la Biovallée où il y a une vraie prise de conscience du lien entre la qualité du territoire, l'agriculture, la santé et la vitalité de nos communes. Et je pense que là, les gens sont en train de faire le lien. C'est peut-être une vision optimiste. Pour moi, en tout cas, les réussites comme la Carline sont un exemple qui a une prise de conscience de la qualité de l'alimentation et de la santé. Je pense que beaucoup de jeunes qui s'installent sur ce territoire, ils font très attention à la qualité de l'alimentation, à la qualité de leur paysage, à la qualité de leurs relations humaines. Ils privilégient, même si ça coûte un peu plus cher, ils privilégient ce type de consommation que d'aller dans les grandes surfaces et de faire abstraction de la vitalité du monde rural ici dans la Drôme et dans le Diois en particulier. Moi, je pense que je suis optimiste de ce côté-là. On est peut-être à rebours de ce qui se passe au niveau national et en tout cas quand on voit la PAC. Mais en tout cas, oui, je suis optimiste pour la montagne, je suis optimiste pour le Diois, je suis optimiste pour la Biovallée et pour la Drôme. Il y a une vraie prise de conscience. C'est une nouvelle vision où on va rapprocher les gens de leur consommation. On va réduire les transports. On va retrouver des solidarités entre les producteurs et les consommateurs. On va retrouver le fait que quand on achète local, on fait vivre des petits agriculteurs du territoire, on protège nos paysages, on protège l'eau, on protège la terre, on a des relations sociales vivantes, on vit dans les mêmes associations, dans les mêmes conseils municipaux, il y a une vraie dynamique de territoire. Je pense que ça, c'est en train de renaître et on en a vraiment besoin.
Merci Claude Véré, on va s'arrêter ici. On va dire où on peut trouver ce livre, édition Delizière, donc Être paysan ensemble. Il est disponible dans les bonnes librairies du coin.
Oui, particulièrement à Mosaïque, ouais. Et à la Balançoire à Cray, mais vous pouvez le trouver aussi dans la Souégambade à Dulfi. C'est vrai qu'il est local. Après, vous pouvez le commander directement à l'éditeur.
C'est ça, mais sur Internet, bien sûr.
Sur Internet, il n'y a pas de... Mais allez à la librairie, c'est préférable.
Et l'autre livre, c'est pour quand?
Je dirais le temps, il me faut à peu près encore 2 ans pour faire le tour parce que je vais prendre mon bâton de pèlerin et je vais aussi aller interviewer des agriculteurs. Il y a encore une vingtaine d'agriculteurs qui sont encore en place sur la centaine que nous étions dans les années 70. Ils ont tous une belle histoire et je pense que ça enrichira le propos et ça aussi, ce sera une page de l'histoire de ce territoire.
Eh ben, on pourra se retrouver quand il sera fait alors.
Ben voilà, avec plaisir à la radio. J'espère qu'elle sera là encore. Il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de raison. Sinon, on ira lutter avec des paysans pour qu'ils nous aident. Bonne journée.
Eh ben, je remercie la radio et je remercie vos auditeurs et à très bientôt.
Interview. Ok, de belle. L'interview du jour.